Alors.
Quand tu veux.
Donc en guise d'introduction de cette présentation, je vais partir de deux paradoxes qui m'ont conduit à choisir cette problématique, portant, comme le titre l'indique, sur la recréation du sacré hindou hors de l'Inde et sur la territorialité religieuse des Tamouls de Maurice. Alors le premier paradoxe, qui est lié à l'introduction de la problématique diasporique dans le champ d'étude de l'hindouisme, porte sur la reproduction du sacré hindou hors de la seule véritable terre sainte de l'hindouisme, qu'est l'Inde. En effet, l'Inde, Bharat en sanskrit, est pensée traditionnellement comme étant la seule terre de l'hindouisme. La profusion de dieux et de lieux saints hindous dans le paysage de l'Inde en témoigne, tout comme un ancien précepte védique qui recommandait aux hindous ayant voyagé hors de la terre de Bharat, hors de l'Inde, de se livrer à des rites de purification à leur retour. D'ailleurs, certains hindous, certains prêtres, notamment dans le sud, continuent de pratiquer ces rites de purification après être partis voyager hors de l'Inde. Et ce précepte parlait d'ailleurs de l'eau noire, Kalapani, de l'océan Indien, signifiant que l'Inde est la seule terre sacrée hindoue entourée d'espaces ne pouvant a priori être que profanes. On peut également citer évidemment le discours de l'Hindutva qui promeut l'idée d'une relation exclusive entre Inde, pardon, et hindouité. Et hindouisme aussi, évidemment. Donc, en conséquence, il serait théoriquement impossible de penser le sacré hindou ailleurs que sur la terre de l'Inde, comme l'a notamment évoqué Mathieu Claverolas. Mais pour autant, depuis l'Antiquité, les hindous n'ont cessé de voyager, de migrer et de s'installer dans d'autres territoires, et même d'y construire des temples. Comme on peut le voir sur les temples tamouls du quartier de la Chapelle, sur lesquels a travaillé Anthony Gouraud, non loin d'ici, mais ce qui est aussi valable pour pratiquement toute la diaspora. Et à ce titre, les tamouls, forts de leur tradition de bâtisseurs de temples, mais aussi de navigateurs, témoignent depuis des siècles d'une propension à bâtir des temples hors de l'Inde, ce qu'on peut notamment expliquer par l'adage populaire tamoul « ne vis pas dans un lieu sans temple », qui finalement va déjà un peu à l'encontre du précepte brahmanique. Donc premier paradoxe de départ, contrairement à l'idée traditionnelle d'une relation exclusive entre Inde et hindouisme, la géographie du sacré hindou ne se limite pas a priori au seul territoire de Bharat. Et dans ce contexte, l'île Maurice, célèbre notamment pour sa diaspora indienne et tamoule, ne fait pas exception à cette tendance. Et donc ce premier constat invite à voir comment se sont opérés et comment s'opère encore aujourd'hui le transfert et la reproduction du sacré hindou sur des terres a priori profanes. Donc voilà pour le premier paradoxe. Le second paradoxe problématique s'intègre davantage dans le cheminement de la réflexion liée à ma thèse qui porte sur la géographie de l'hindouisme tamoul. En effet, je travaille depuis ma maîtrise sur la géographie religieuse des temples hindous en pays tamoul, en Inde du Sud. Et mon objet d'étude, qu'est l'hindouisme tamoul, me semblait constituer une catégorie d'analyse pertinente, voire évidente. Alors, le pays tamoul, donc, c'est en Inde du Sud. Donc, une catégorie d'analyse pertinente, voire évidente, puisque 90% des personnes du Tamil Nadu interrogées au recensement en 2001 sur leur religion, plus de 90% se disent hindous au Tamil Nadu. Donc, a priori, l'hindouisme tamoul paraissait pertinent. Pourtant, les discours de quelques indo-mauriciens rencontrés en France dans le cadre de discussions plus ou moins formelles m'ont quelque peu troublé dans mes certitudes. En effet, à plusieurs reprises, à la question « Êtes-vous tamoul ?», les indo-mauriciens me répondirent « Non, je suis hindou ». Donc, cela me surprit, puisque les deux termes « hindou » et « tamoul » étaient présentés comme étant distincts, voire antinomiques. Alors, je voulus vérifier ce paradoxe auprès des Tamouls mauriciens en leur demandant « Êtes-vous hindou ?» Ils me répondirent « Non, je suis Tamoul. » Donc, ces réponses confirmaient que pour ces Indo-Mauriciens, être hindou ne voulait dire ne pas être Tamoul, et réciproquement, être Tamoul voulait dire ne pas être hindou. Donc, de fait, mon objet d'étude, qui était l'hindouisme Tamoul, ne tenait plus trop vraiment, et j'étais un peu désorienté. Et donc, comme mon travail de thèse devait impliquer un terrain à l'étranger dans la diaspora, Maurice m'a semblé constituer un terrain tout à fait indiqué pour interroger l'hindouisme tamoul d'outre-mer, si tant est qu'il existe finalement. Donc voilà pour le cadre de départ. Cela étant précisé, je vais tâcher donc de présenter ce matin, d'une part, les modalités de la reproduction du sacré hindou à Maurice, et d'autre part, les raisons qui amènent les indo-mauriciens à se dire soit tamoul, soit hindou, c'est-à-dire l'un ou l'autre, et non pas l'un et l'autre. Donc pour ce faire, je présentais dans un premier temps les contextes historiques et politiques de la reterritorialisation de l'hindouisme tamoul à Maurice, avant de m'intéresser dans une seconde partie à ce que disent les Kovils, sont les temples hindous, le temple tamoul, pardon, nuance, sur la territorialité religieuse des Tamouls de Maurice. Alors, donc c'est au les contextes historiques dans un premier temps, c'est au XVIIIe siècle et dans le cadre colonial français que l'arrivée des premiers Tamouls à Maurice, appelée alors Île-de-France, débute notamment sous l'influence de Mahé de la Bourdonnais, habitué des comptoirs français du sud de l'Inde, qui procéda en 1730 à un recrutement massif, un recrutement important d'artisans et d'ingénieurs tamouls qui participèrent à la construction de l'Île-de-France en tant que personnes libres, donc 1730. Et afin de préserver leur culture face aux missionnaires et à la politique d'assimilation coloniale, les Tamouls érigent dès la fin du XVIIIe siècle des petits hôtels aux abords des champs et des villages. Et ils construisent même en 1772 un premier temple pour célébrer leurs fêtes religieuses. Et ce temple, dont il ne reste aucun vestige aujourd'hui, aurait été finalement le premier temple hindou de l'île Maurice, premier temple hindou, mais premier temple tamoul, et un premier temple de tout l'hindouisme à Maurice. Donc il faudra ensuite attendre la première moitié du 19e siècle pour que le second temple tamoul soit bâti à Maurice. Et ce fut durant la période coloniale française que les Tamouls ont introduit le culte de la déesse à Maurice, et surtout celui de Murugan à Maurice, un culte très important pour les Tamouls, comme on le verra par la suite. Et à cette période, le culte de Murugan et ses fêtes religieuses réunissaient tous les hindous, quelle que soit leur origine, mais aussi les musulmans d'origine indienne. En effet, à cette époque, en situation minoritaire, les Indiens étaient alors incités à transcender leurs différences confessionnelles, ethnoculturelles ou linguistiques, et afficher une certaine unité à cette époque-là. Donc, et se rassembler donc dans les temples tamouls autour du culte Murugan dans un premier temps. En 1814, l'île passe aux mains des Anglais, qui la rebaptisent Mauritius, et 20 ans plus tard, l'abolition de l'esclavage entraîne le recrutement massif de travailleurs indiens engagés sur contrat pour remplacer les esclaves dans les plantations, ce qui aura pour effet d'augmenter considérablement la présence indienne à Maurice, mais aussi de reléguer les immigrants indiens au bas de l'échelle sociopolitique et économique. Alors, durant l'engagisme, du fait de sa proximité géographique avec l'Inde, qui était membre évidemment de l'Empire colonial, l'île Maurice constitue la principale destination des engagés indiens et reçoit... ça c'est une carte de localisation que j'ai pas évoquée. Et reçoit donc 450 000 Indiens entre 1834 et 1912, soit environ un tiers du nombre total d'engagés indiens partis dans les colonies d'outre-mer. Alors il faut préciser que les engagés d'origine indienne se distinguent des primo-arrivants, arrivés de l'Inde du Sud, plus d'un siècle auparavant. Ce nouveau contingent arrivé en 19e, donc les engagés, constitue un groupe hétérogène composé en majorité d'Indiens originaires du nord de l'Inde, puisqu'environ 60% des engagés sont issus des états actuels du Bihar et de l'Uttar Pradesh. 33% viennent de l'Inde du Sud, actuel Tamil Nadu et Andhra Pradesh. 7% du Maharashtra. Les deux tiers des engagés sont de confession hindoue et 25% sont musulmans, proportion des chrétiens étant minime, donc le pays tamoul étant dans la partie sud. Et donc 60% de ces engagés viennent des états du nord, de l'Uttar Pradesh, voilà, Uttar Pradesh, Bihar, et seulement 33% viennent de ces régions-là. Alors pour ce qui est des tamouls, au 19e siècle, parallèlement à l'arrivée massive d'engagés tamouls, venus travailler dans les champs de canne à sucre, il y avait également de nombreux commerçants tamouls qui s'installèrent à Port-Louis, la capitale, et ce qui aura pour effet de constituer une diaspora tamoule duale à Maurice, avec d'un côté une diaspora prolétaire désengagée, et d'autre part la diaspora commerçante. Or, cette structure duale se retrouvera dans les temples tamouls bâtis au XIXe siècle. En effet, au XIXe siècle, les commerçants tamouls et leurs familles formaient un groupe socialement visible qui se distinguait désengagé en termes de